Voilà, bonjour à toutes et à tous. Il y a deux semaines, on a commencé l'étude du livre du prophète Agée, et je vous propose de poursuivre ce matin. On a vu la fois précédente que, malgré les désobéissances répétées d'Israël, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Avant même qu'Israël soit déporté à Babylone, Dieu avait inspiré, révélé à Ésaïe et aussi à Jérémie que Israël reviendrait dans sa terre sous l'impulsion du roi Cyrus, vous vous rappelez, le roi de Perse. Et il leur a donné donc cet ordre qu'on va relire. Agée 1, verset 2, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. » Dieu avait donné l'ordre de reconstruire la maison de l'Éternel, le temple. On ne va pas aller plus loin ce matin, mais on va se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu tient tellement au fait que le temple soit reconstruit? Quelle place a le temple dans le cœur de Dieu, dans le projet de Dieu pour l'humanité et aussi pour nous? Une première chose qu'on constate quand on lit la Bible, c'est qu'il a toujours été du désir de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons été créés. Dieu avait comme projet de faire sa résidence parmi un peuple nombreux, une famille. Dans la Genèse, le premier temple, si on peut dire, le premier lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité, et nos premiers parents, c'était le jardin d'Éden. C'était le premier temple. C'est là que Dieu se rencontrait les hommes qui... le couple, le premier couple qu'il avait créé. Genèse 3, verset 7 nous dit « La voix de l'Éternel, Dieu, parcourait le jardin chaque soir. » Et donc Adam et Ève avaient cette visite quotidienne de Dieu. Et dans cette visite, il y avait sans doute cette liberté d'échange de paroles entre eux. Ça, c'est la Genèse. Dans l'Apocalypse, quand l'histoire humaine sera terminée, il est parlé d'une ville qui descend du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Et dans Apocalypse 21, verset 3, il est dit « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » On voit ici le projet de Dieu, le désir de Dieu se concrétiser pour l'éternité. Et si on veut une définition du ciel, qu'est-ce que c'est le ciel? Ben, c'est le lieu dans lequel Dieu habite au milieu de son peuple. C'est ça le ciel. C'est une définition assez simple. Dieu est là, au milieu des siens. Ce désir de Dieu d'être en communion avec les hommes qu'il a créés, c'était son projet initial. Si Dieu nous a créés, ce n'est pas parce qu'il avait des besoins. Certains pensent, Dieu n'ayant personne à aimer, il a créé l'humanité. Ce n'est pas du tout comme ça que la Bible présente les choses. Il y avait entre les trois personnes de la divinité une communion, un amour infini et éternel. Et en fait, c'est par débordement de cet amour que Dieu a voulu créer des hommes qui soit semblable à son Fils, avec qui il puisse partager ce débordement, cette richesse de son amour. Et donc, bien sûr, ce projet nous dépasse, nous ne sommes que des êtres humains créés, mais Dieu avait vraiment en vue qu'un jour nous puissions être ses vis-à-vis, que nous puissions partager sa gloire et ses richesses. Aussi, quand le péché est entré dans le monde, Il faut bien réaliser que la blessure la plus profonde que le péché a occasionnée, elle a été dans le cœur de Dieu. Le jour où les humains ont décidé de prendre leur autonomie, de décider eux-mêmes de leur vie. Le péché a créé une rupture terrible entre Dieu et l'homme. Et on le voit, cette rupture, elle s'est concrétisée dans le jardin d'Éden par le fait que Adam et Ève sont chassés, justement, du jardin d'Éden. La cohabitation n'est plus possible. La proximité n'est plus possible. Les échanges entre Dieu, le partage n'est plus possible. Alors nous devons être conscients que l'histoire de l'humanité aurait pu s'arrêter à Genèse 3. Si Dieu avait dit, ils ont pris leur décision, j'en prends acte, les hommes veulent être leur propre maître, leur propre Dieu, qu'ils restent dans cet état. Mais on voit que Dieu fait une promesse dès le début, qu'il y aura une restauration, et que la relation avec Dieu pourra être rétablie, et que Dieu pourra de nouveau être avec son peuple. Et ce projet de réconciliation, on l'étudie en ce moment, en semaine, eh bien il a commencé avec Abraham. Abraham, Dieu choisit Abraham, et à travers lui, un peuple qu'il met à part, à qui il se révèle, il donne sa loi. Et ceux qui connaissent l'histoire d'Israël savent que la première chose, une des toutes premières choses que Dieu demande à son peuple, c'est quoi? C'est de lui construire un lieu de rencontre, un tabernacle. Avant même qu'Israël soit dans le pays qu'il a promis, Dieu dit à Moïse qu'il doit construire un tabernacle. Le tabernacle, c'est la première forme du temple, de cette maison de Dieu. Mais on va voir que tout au long de l'histoire d'Israël, il va prendre différentes formes, mais justement le temple, ce souci d'avoir un lieu d'habitation, un pied-à-terre au milieu de son peuple, il perdure, il continue. Et on pourrait presque diviser toute l'histoire d'Israël à partir des différents lieux de rencontre que Dieu a eus avec son peuple. Le tabernacle va prendre différentes formes, on peut dire, la maison de Dieu, mais on va voir que c'est toujours avec les mêmes moyens, par le même chemin, qu'on entre dans la présence de Dieu, quelle que soit la forme que prenne la maison, l'habitation de Dieu. Alors ce matin, je vous propose un parcours dans la Bible et on va justement suivre ces différentes formes d'habitat de Dieu au milieu de son peuple. La première forme, donc, c'est le tabernacle. Le tabernacle n'était pas une demeure en pierre, en dur, on pourrait dire, mais c'était une demeure adaptée à la situation d'Israël, au déplacement d'Israël. Le Seigneur a fait sortir par Moïse Israël de l'esclavage. Il les a conduits dans le désert, puis dans son pays, le pays qu'il avait préparé pour eux. Et pendant toute cette période d'exode, de pérégrination, où le peuple se déplace, eh bien, Dieu leur a donné le tabernacle comme moyen de rencontre. D'ailleurs, le tabernacle a pour nom la tente de la rencontre. C'est là que Dieu rencontre les siens, rencontre son peuple. Ce tabernacle est fait de différents matériaux, des peaux d'animaux, des éléments en bois d'acacia, des tentures en tissu, des pieux en fer, des cordes, des objets en argent, en bronze, en or. Tout cela appelé à être, on peut dire, emballé quand il faut déplacer, quand Israël avance, bouge. Une première chose qu'on voit, c'est que ce n'est pas Moïse qui a inventé le tabernacle. C'est Dieu qui lui a donné l'ordre, mais qui lui a aussi donné le modèle. Dans Exode 25, 40, il est dit « Regarde, Dieu dit à Moïse, regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ce n'était pas à Moïse d'inventer une manière de s'approcher de Dieu. C'était Dieu qui lui montrait de quelle façon le peuple pouvait le rencontrer, venir dans sa présence. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que le tabernacle n'est pas la réalité, mais une figure du chemin spirituel que l'on doit suivre pour cohabiter avec Dieu, pour entrer en communion avec lui. Hébreux 8, verset 5 dit « Les Juifs célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en a été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais on voit bien qu'il y avait tout un processus, un protocole pour entrer dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas simplement venir comme ça. C'est Dieu qui décidait de la forme et des moyens. Quand Israël s'arrêtait pour un campement, alors il y a des passages de la Bible qu'on n'aime pas trop lire parce que c'est un peu long et puis rébarbatif. Si vous lisez Nombre 2, eh bien, il y a la description du campement quand Israël arrive quelque part. Et on voit dans ce campement que le tabernacle est au milieu et les 12 tribus sont réparties autour. Dieu est au milieu de son peuple. Au moment de partir, quand ils doivent se déplacer, il est dit, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Au moment de partir, puisque le tabernacle allait être replié, Moïse adressait une prière de protection à Dieu. « Protège-nous pendant que nous sommes en route. » Et quand on posait l'arche, Moïse disait « Reviens, Éternel, vers les dizaines et les dizaines de milliers d'Israël. » Moïse priait pour que Dieu revienne, pour que sa présence soit de nouveau au milieu des siens. Ça, c'est la première forme d'habitation. On pourrait beaucoup parler là-dessus, hein, il y aurait énormément à dire. Des livres ont été écrits sur le tabernacle, avec tous les symboles qu'il y a dedans et qui nous parlent de ce que Jésus allait faire plus tard, accomplir. Après qu'Israël soit arrivé à Canaan, comme toutes les autres nations, ils se sont structurés de plus en plus et à un moment, ils ont désiré un roi comme les autres peuples. Pendant un certain temps, le tabernacle est resté là. Et Dieu habitait toujours sous la tente. Et vous connaissez certainement l'histoire. Un jour, le roi David, en voyant Dieu sous la tente et lui dans son palais, s'est dit « il y a quelque chose de pas normal ». Il est allé voir le prophète Nathan et il lui a dit « Vois, j'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente ». Nathan répondit au roi « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Il y avait certainement une bonne intention derrière tout cela, mais Dieu n'a pas agréé la demande de David. Dans 2 Samuel 7, dans ce chapitre, vous pouvez lire cela, versets 5 à 7, Dieu lui dit « Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ?» En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé dans une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël, « Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison de cèdre ?» C'est comme si Dieu lui disait, mais... Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu désires me construire une maison ? Dieu va pourtant accéder au désir de David, mais il va lui dire « C'est moi qui vais construire mon temple. » et il le fera quand il le voudra et à la manière comme il le voudra. Le temple sera construit donc sous Salomon. Et on s'aperçoit ici, avec cette deuxième étape, que... Des gens qui veulent rentrer. Avec cette deuxième étape, que la mission du tabernacle, la mission de la maison de Dieu change. Elle va changer. Le tabernacle était surtout le lieu de rencontre entre Dieu et Israël, son peuple. Mais ici, le temple va avoir une portée beaucoup plus grande. Le but du temple, c'est d'attirer tous les peuples à Jérusalem pour qu'ils connaissent le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et dans sa prière, on voit, après qu'il ait construit le temple, Salomon dit « Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte, ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. » La vocation du temple, c'est d'être un lieu de témoignage universel, une sorte d'aimant au travers duquel les peuples sont attirés vers le vrai Dieu, le seul Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan géographique, Israël est au centre du monde. Je ne sais pas si vous le savez, il est, on peut dire, au milieu, au croisement de trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et donc, au milieu du monde, il y a un peuple qui n'a qu'un temple. Les autres peuples ont plein de temples, parce qu'ils ont plein de dieux. Mais Israël n'a qu'un temple. Pour signifier à toutes les nations, il n'y a qu'un Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Le peuple qui vit au centre du monde témoigne par le temple qu'il s'est construit et que Dieu lui a demandé de construire, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui veut être le Dieu de tous les peuples. Ésaïe dit dans le chapitre 45, verset 22, à ce sujet, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Alors le projet de Dieu avec le temple, on voit qu'il commence à se réaliser avec Salomon. Au temps de la gloire de Salomon, des hommes de toutes les nations venaient voir le roi, venaient au temple pour connaître le Dieu de Salomon. Vous vous rappelez sans doute de l'épisode de la reine de Saba, hein, qui a entendu parler de ce qui se passait en Israël à Jérusalem et qui est venue. Le but du temple, c'est pas simplement d'être le lieu de culte d'Israël, comme le tabernacle, le lieu de la rencontre, mais c'est d'être un lieu de témoignage pour tous les peuples. Le temple, on l'a vu, a été détruit par les Babyloniens, mais on voit que Dieu n'a pas lâché l'affaire. Et donc, il donne cet ordre à Israël de reconstruire le temple. Et ici, il y a une troisième raison pour laquelle le temple doit être reconstruit. Première raison, on a vu, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. La deuxième raison, c'est un lieu de témoignage. Et là, Dieu va donner une troisième raison pour laquelle le temple doit être construit. Cette raison, c'est que le Messie d'Israël doit venir dans le temple un jour. Dans Malachie 3, verset 1, il est dit « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. » Si le temple n'est pas reconstruit, la promesse ne peut pas s'accomplir. Le Messie ne peut pas venir. Dans Agée, chapitre 2, verset 9, Agée dit « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » On verra encore qu'il y aura une version ultime du temple plus tard, la Bible en parle, mais le temple doit traverser le temps. Et c'est dans ce temple que le Messie doit venir. Le deuxième temple a débuté en 537 avant Jésus. Il a été modeste pendant longtemps et puis sous l'impulsion d'Hérode. Dieu est souverain, il peut utiliser qui il veut, comme il veut. Hérode, qui était un roi terrible et qui commettait plein d'exactions envers le peuple juif, mais pour se gagner les juifs religieux, il a dit « je vais construire le temple ». Et pendant 46 ans, il a construit le temple. Le temple de Jérusalem était l'une des merveilles du monde. Les sages d'Israël disaient « Celui qui n'a jamais vu le temple dans son achèvement n'a jamais vu un édifice magnifique. » Alors peut-être c'était du chauvinisme. Mais quand même, juste quelques détails sur ce temple. Au temps de Jésus, le temple avait une surface de 144 000 mètres carrés. Il représentait 10% de la surface de la ville. J'ai lu ça dans un livre. L'acropole d'Athènes, avec le Parthénon, ne couvrait qu'un cinquième de la surface de la place du temple. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, on y allait en Grèce. C'est déjà énorme, le Parthénon. Dans l'esplanade du temple, on aurait pu installer toutes les grandes cathédrales de l'Angleterre. Et il y aura encore eu de l'espace. C'est Roger Liévy qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Messie du Temple » qui relate cela. On comprend alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'admiration des disciples devant le temple quand ils sont avec Jésus, qui disent « Regarde cette construction magnifique !» Mais Jésus les prévient « Cette version du temple ne sera pas la dernière. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. » C'est dans Matthieu 24, verset 2. En l'an 70, donc, sous l'impulsion de Titus, le général romain, le temple est détruit. Est-ce à dire pour autant que il n'y a plus de lieu de résidence de Dieu parmi les humains, parmi son peuple? Jésus a anticipé déjà cette fin du second temple. Et sans doute vous vous rappelez, pour ceux qui lisent l'Évangile, cette parole de Jésus quand il était justement dans le temple, alors qu'il y avait les marchands, les vendeurs qui faisaient du trafic. Il s'est levé, il les a chassés avec un fouet et il a crié « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Vous vous rappelez de ça? Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi tu dis qu'en 3 jours, tu le relèverais. » Et Jean donne son commentaire par rapport à cette parole de Jésus. Il dit « Cependant, Jésus parlait de son corps. » Parlez pas des pierres. En fait, il y a une relation très étroite entre les formes d'habitat de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a vu que ça a commencé par le tabernacle et ça s'est poursuivi par le temple. En fait, dans le Nouveau Testament, on a le même processus. Quand Jésus vient, la Bible dit, Jean 1, verset 14, « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Quand Jésus était là, il y avait une nouvelle maison de Dieu, c'était lui-même. Et le mot utilisé par Jean pour dire « elle a habité parmi nous », je ne sais pas si vous savez, c'est il a dressé sa tente parmi nous. Il a tabernaclé, on pourrait dire, parmi nous. Jésus est comme le tabernacle du temps de Moïse. Il est la nouvelle maison de Dieu au milieu de son peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est jamais sorti d'Israël. Il est resté en Israël. Comme le tabernacle d'ailleurs. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, il disait. C'était d'abord pour son peuple qu'il était là. Mais il a parlé à un moment du fait que lui allait partir. Comme le tabernacle a eu un moment, lui aussi allait disparaître et laisser place à quelque chose de beaucoup plus grand qu'il appelle l'Église, son temple. Moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre venait de confesser que Jésus est bien le Christ. Et sur ce rocher, sur ce que tu viens de dire, je construirai mon Église, mon temple. Le temple de Jérusalem a disparu. Jésus est remonté vers le ciel, mais la maison de Dieu existe toujours. Et cette maison de Dieu, c'est l'Église. L'Église réunit, on le verra encore tout à l'heure, les missions qu'avait le temple. C'est un lieu de témoignage universel pour que tous les hommes apprennent à connaître Dieu à travers l'Église. Les apôtres, quand ils parlent de l'Église, reprennent le langage du temple. Éphésiens 2, versets 20 et 21, Paul dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre d'angle. » Il parle d'une bâtisse ici. « C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Si donc on nous demande où est-ce que Dieu habite aujourd'hui, comment on peut le rencontrer? Où se manifeste sa présence? La réponse est ici, elle est dans l'Église, dans ce peuple qu'il a racheté et qui est dispersé dans le monde entier pour être un témoignage à sa gloire. Pierre, lui aussi, utilise le même langage que Paul. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est 1 Pierre 2,5. À Timothée, quand il lui donne des directives pour les églises, il dit « Je t'écris afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Pourquoi est-ce que le temple qui a été détruit à Jérusalem n'a jamais été reconstruit, même s'il le sera un jour, à la fin des temps? Eh bien parce que le temps actuel, c'est le temps de l'Église, qui est temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et Paul va même plus loin, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit, c'est que chaque chrétien est aussi un temple. 1 Corinthiens 6, 19. Un lieu de témoignage. Un lieu dans lequel le Seigneur vit. Un lieu de rencontre. Dieu peut faire venir et utiliser chaque chrétien pour que des personnes qui ne le connaissent pas le découvrent. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. On comprend alors, quand on voit la vocation qui est la nôtre et celle de l'Église, la prière de Paul à Éphésiens, dont j'ai déjà parlé il n'y a pas trop longtemps. Il prie pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et je vous avais dit que la prière de Paul voulait simplement dire que Christ soit visible, que les traits de caractère du Christ, sa présence, son amour soient visibles, perceptibles par ceux du dehors. Nous sommes le temple de Dieu. Et le Seigneur désire nous utiliser comme un corps. Nous sommes les membres du corps et à travers nous, il peut toucher d'autres pour qu'il soit gagné à lui. Cette version du temple qu'est l'Église va un jour disparaître aussi. Jésus nous a dit que nous serions enlevés auprès de lui à la fin des temps, quand le témoignage sera répandu au milieu de toutes les nations. Et la Bible parle d'une dernière version du temple, au moment où le Christ régnera à Jérusalem. Je ne vais pas détailler là-dessus. Vous pouvez lire Ésaïe 2, on va peut-être le lire quand même, Ésaïe 2, versets 1 à 4. C'est une vision glorieuse qui nous est donnée de ce temps-là. Et les Juifs aujourd'hui s'y préparent activement. Ils font tout pour rassembler tous les éléments qui permettront au temple d'être reconstruit. Ésaïe 2, versets 2 à 4. « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Le projet de Dieu se réalisera alors pleinement. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leur lance pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Voilà la vocation finale du temple, et je pense que tous les événements qui se passent aujourd'hui sont en train de préparer cela finalement. Le retour du Seigneur et l'établissement du temple comme lieu d'attraction pour tous les peuples pour venir adorer l'Éternel. Alors je voudrais résumer pour finir et nous rappeler les quatre missions du temple, du tabernacle et de l'Église, et de chaque chrétien en même temps, puisque nous sommes aussi le temple. Nous rappeler d'abord que le temple est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est là que Dieu vient, au milieu de nous ce matin. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom pour prier, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Matthieu 18, 20. C'est aussi pour ça que la vie d'Église est importante. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens individuels ou individualistes. C'est dans l'Église, au milieu de son peuple, que Dieu vient. Et la présence de Dieu, la présence de l'Église est si importante que Jésus dira à Pierre, « Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. » Les décisions qui se prennent dans l'Église sont entérinées au ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guide ces décisions. Jésus parle ici de la discipline d'Église. Première définition, donc, première vocation du temple, c'est le lieu de rencontre. Ensuite, c'est le lieu du témoignage. Jésus l'a dit, il a donné un ordre à ses disciples. « Ne restez pas où vous êtes, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus est resté à Jérusalem, en Israël. Il n'a jamais vraiment dépassé les frontières d'Israël, mais il a donné à ses disciples l'ordre d'aller partout dans le monde. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut dire que cette mission est en train de s'accomplir aujourd'hui. Il y a très peu d'endroits où l'Évangile n'est pas encore connu. Il y a continuellement des traductions nouvelles de la Bible. Il y a aussi tous les moyens qui sont à notre disposition pour répandre l'Évangile. Ce qui est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le tabernacle, ce n'est pas Moïse qui a inventé le chemin pour venir vers Dieu, c'est Dieu qui l'a décidé. Et la première chose que les Israélites rencontraient quand ils rentraient dans le tabernacle, c'était l'autel des sacrifices. Il fallait que des victimes innocentes soient sacrifiées pour que le péché soit pardonné. La première chose que les gens doivent entendre quand ils viennent à l'église, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. C'est Christ qui est au centre de l'église et son sacrifice. C'est pour ça qu'on prend la scène, on se rappelle ça. Commémorez-vous ma mort et ma résurrection. Une église qui n'annonce pas l'évangile passe à côté de l'une ou même de sa mission principale. Quiconque vient à l'église doit découvrir et apprendre que c'est par Jésus qu'il est sauvé, par sa mort, par son sang versé. L'église est ensuite un lieu d'édification, le temple, de rencontre du peuple de Dieu autour de sa parole. Les sacrificateurs ne faisaient pas que des sacrifices, ce n'était pas seulement leur mission. Malachie 2, verset 7 dit « Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. » Les prêtres avaient pour mission d'enseigner le peuple à obéir à Dieu, à suivre ses voies. Et l'Église est le lieu où on s'édifie et où l'on s'instruit dans la parole de Dieu. Dieu a donné différents dons pour cela. Paul le dit, il a donné les uns comme apôtres, je veux dire missionnaires, comme prophètes, enseignants de la parole, comme évangélistes, comme bergers, docteurs. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps. C'est aussi pour ça que c'est important de nous retrouver ensemble régulièrement pour nous encourager et nous édifier dans la parole de Dieu. Dieu veut édifier son corps et il le fait au travers des dons qu'il a donnés aux uns et aux autres. Et puis le dernier point, c'est que l'Église est un lieu d'adoration. C'est pour ça qu'on a nos cultes, où on vient offrir à Dieu des victimes spirituelles, c'est-à-dire des sacrifices, où on offre sa vie, on offre ses biens, on offre son temps, on offre son argent, on offre tout ce qu'on peut offrir pour honorer Dieu et le servir. D'ailleurs, c'est intéressant que la Bible reprend le langage de l'Ancien Testament pour parler de nous. Jean dit par exemple que le Christ a fait de nous des prêtres pour Dieu son Père. Il n'y a plus maintenant une caste comme ça, nous sommes tous prêtres. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 10. On doit toujours se rappeler cela, comme on l'a lu ce matin, comme Rav nous l'a rappelé, que l'Église n'est pas là pour nous servir d'abord. L'Église est le lieu où nous servons. Nous apportons à Dieu la gloire, la louange, où nous sommes là pour lui. Je vais terminer avec un verset qui est aussi un ordre du Seigneur, bien sûr, à cause de la vocation que nous avons, nous sommes appelés à nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. 2 Corinthiens 6, 16 à 18, il est dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. C'est pourquoi ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alors je crois que c'est important qu'on ait vraiment une juste idée de la mission qui est la nôtre, de notre vocation. Parfois nous pensons que Oui, nous ne sommes pas grand-chose, un petit groupe, etc. Mais Dieu a de grandes vues par rapport à son Église. Rappelons-nous que si une seule personne découvre le Christ, eh bien c'est son salut éternel qui est assuré. Cette personne vivra pour toujours avec le Seigneur. Elle sera dans l'éternité. Elle connaîtra sa joie. C'était le but pour lequel elle a été créée. Alors que Dieu nous aide à nous souvenir de la vocation qui est la nôtre et de pouvoir entrer dans ce projet qu'il a eu pour nous. Amen.